Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
On rame toute l'année à travailler. Les gens, ils ont peur, ils sont intoxiqués par ce Covid. Et là, ils veulent nous refermer. Mais c'est la mort des petits commerçants. On va mourir, mais de faim, pas du Covid.
Les habitants de Nice dans l'attente d'un nouveau tour de vis. Reconfinement le week-end en bord de mer, couvre-feu avancé, plusieurs scénarios sur la table, décision attendue a priori dans la journée. Le maire d'Antibes, Jean Leonetti, qui a rencontré hier le ministre de la Santé, discuté avec le préfet, sera avec nous dans un instant. La ville de Codogno, première ville confinée en Europe, qui se souvient du premier mort du Covid en Europe, c'était il y a tout juste un an. Toujours dans le journal de la mi-journée, l'actualité sportive dominée par Djokovic, décidément invincible à Melbourne, 9e victoire à l'Open d'Australie, 18e titre du Grand Chelem, nous racontera Corinne Boulou. La grosse frayeur des passagers d'un vol d'Anvers à Hawaï, réacteur en feu après le décollage, débris qui tombent au sol et l'avion qui a quand même pu se poser sans blesser. Le mythique Phocéa qui a coulé au large de la Malaisie après avoir été touché par un incendie cette semaine. Et puis le témoin de la semaine, le sociologue Serge Guérin, avec cette question, est-ce que cette crise du Covid va provoquer une fracture entre les générations, alors qu'un sondage paru dans Le Monde cette semaine dit que la moitié des Français craignent un conflit entre les seniors et la jeunesse qui se sent sacrifiés. Enfin, la météo, et ça va souffler fort dans le sud sur les reliefs du Tarn et de l'Aveyron, c'est ce que nous dira Valérie Darmon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Reconfinement le week-end, couvre-feu avancé à 16h. Plusieurs scénarios sont donc sur la table pour freiner les contaminations à Nice et dans les Alpes-Maritimes. Les habitants devraient être fixés dans la journée a priori. Et ceux que vous avez rencontrés ce matin, Marion Gauthier, attendent, on va dire, plutôt résignés.
Oui, la phrase qu'on m'a le plus répétée ce matin, Fabienne, c'est « Que voulez-vous faire ?». Les Niçois semblent avoir pris leur mal en patience. Ils sont nombreux à être sortis, profiter du dernier dimanche de liberté, peut-être avant quelques semaines. Jérôme et Laurence remplissent leurs yeux des couleurs de la mer, du monde sur le marché.
Peut-être une dernière bouffée d'air frais, parce que si le soir on doit être rentré à 6h et le week-end on est confiné, ça va être compliqué quand même.
Alors, l'attente, c'est terrible, c'est de ne pas pouvoir se projeter. On en a marre d'être confiné, reconfiné, mais sans projection. Psychologiquement, c'est un peu épuisant.
Mais malgré le soleil, l'ambiance est pesante pour les commerçants. Isabelle soupire, elle se sent comme en sursis.
On vient de rentrer à peine dans les vacances. On rame toute l'année à travailler parce qu'on n'arrive pas à gagner d'argent. Les gens, ils ont peur, ils sont intoxiqués par ce Covid. Et là, ils veulent nous refermer. Mais c'est la mort des petits commerçants. On va mourir, mais de faim, pas du Covid. On subit ras-le-bol, quoi.
Mais les chiffres d'affaires en berne, le tourisme qui s'essouffle. Marie tient son stand de produits du terroir sans grande conviction.
Moi, je viens juste pour meubler parce qu'il n'y a pas de touristes et très peu de Français en vacances aussi qui viennent nous rendre visite. Donc, on se sent complètement pestiféré, oui.
Il reste un espoir ici. Si Nice doit être la première ville à reconfiner, peut-être sera-t-elle au moins la première à revivre.
Marion Gauthier à Nice pour Europe 1. Bonjour Jean Leonetti.
Bonjour.
Maire d'Antibes dans les Alpes-Maritimes, ville de bord de mer très appréciée des touristes et aussi pôle d'excellence économique avec la technopole de Sophia Antipolis. Vous avez rencontré Olivier Véran hier, vous avez eu des discussions avec le préfet. Est-ce qu'à cette heure, on vient d'entendre ces habitants qui attendent ? Vous avez une indication sur la décision qui pourrait être prise ?
Une précision, j'ai eu le ministre au bout du fil, on n'était pas invité à la réunion niçoise, mais on s'est entretenu et projeté ce qui va se passer. On n'est pas vraiment dans une concertation, on est dans une information bienveillante, mais une information. Donc je crois pouvoir dire que effectivement les deux prochains week-ends seront des week-ends de confinement. Donc la décision est déjà prise, c'est pas parce que... On fait le tour des élus, que ça va modifier quoi que ce soit, puisque à l'ouest du département, et moi en particulier, je suis opposé à ce confinement, parce que c'est un pis-aller, c'est une méthode par défaut, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas donné les moyens hospitaliers, et puis on n'a pas donné les moyens de vaccination. Mais... si on vaccinait de manière massive, on n'aurait pas besoin de faire ces stop and go et ces permanences de confinement, déconfinement.
Mais Jean Leonetti, vous nous dites ce midi que pour vous, à partir du week-end prochain, on sera confiné effectivement dans votre ville à Antibes et à Nice, et le week-end d'après aussi.
Oui, malgré le fait que des maires comme le maire de Cannes, de Grasse ou d'Antibes, qui sont moins infectés que la métropole niçoise, moitié moins, propose des solutions alternatives. Donc malheureusement, on n'a pas assez de vaccins. Moi, ça me paraîtrait assez normal que dans les zones qui sont particulièrement exposées, les zones rouges, on ait deux fois plus de vaccins qu'ailleurs pour sortir rapidement de la solution.
Parce que pour vous, confiner partiellement uniquement le week-end, ça n'a pas de sens.
Ben, ça n'a pas de sens et on nous a déjà fait le coup, si je peux m'exprimer ainsi, avec le confinement à 18h. On nous a dit à 18h, vous allez voir, ça va être efficace. On voit l'efficacité pratiquement un mois après. L'efficacité, elle est nulle. Donc, en réalité, ces mesures de confinement partiel, elles ont une efficacité sur le plan sanitaire très limitée et elles sont extrêmement pénalisantes sur la vie sociale. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'on devrait agir plus médicalement. Enfin, vous savez que je suis médecin.
Vous êtes médecin, justement.
Donc, j'en ai discuté très librement avec Olivier Véran, qui l'est aussi. On sait très bien que c'est traiter, dépister et vacciner qui sont les bonnes méthodes. Le confinement, c'est une méthode archaïque qu'on utilise par défaut parce qu'on ne peut pas être efficace.
Mais justement, c'est quoi la bonne solution? Les vaccins, vous dites vaccination massive avec un confinement total, mais ces vaccins, vous le dites vous-même, Olivier Véran a annoncé 3500 doses de Pfizer-BioNTech qui doivent arriver dès demain, des doses d'AstraZeneca plus tard, ça ne va pas suffire?
Évidemment, 3500 doses supplémentaires dans un département qui a 1 million d'habitants, c'est une goutte d'eau dans un océan de difficultés. Donc, effectivement, on n'est pas, c'est pas à la hauteur de l'enjeu. Malheureusement, bon, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Elles sont reconnues d'ailleurs par la présidente de la Commission européenne. On n'a pas assez de vaccins et on ne s'est pas donné les moyens de produire du vaccin sur notre territoire. Si on avait acheté les licences, même après la commande européenne, on serait aujourd'hui en production sur le plan national et on pourrait répondre à cette demande. C'est quand même terrible que dans le pays de Pasteur, on soit obligé de se confiner comme au 19e siècle, lorsqu'il y avait des épidémies de peste ou de choléra, et qu'on ne soit pas dans une situation dans laquelle on utilise les bons moyens. Or, les hôpitaux n'ont pas eu de moyens supplémentaires et la vaccination tarde à arriver.
Et vous allez quand même vous plier à ces confinements partiels dans votre ville à partir du week-end prochain?
Mais comment puis-je faire autrement? C'est une décision préfectorale. Si on me demande ce que je dois faire sur ma ville, elle est plutôt protégée et en même temps, les mesures qu'on a prises me paraissent des mesures de bon sens. Essayons de les faire accepter, mais je vous le dis, aujourd'hui, on n'est pas dans la concertation. On nous a gentiment informés de ce qui allait se produire dans les semaines à venir.
Dernière question, Monsieur Leonetti. Est-ce que vous dites, comme une députée des Alpes-Maritimes, Marine Brenier, qu'il ne faut pas que les Français viennent en vacances dans votre département?
Bon, écoutez, c'est un peu tard pour le dire, d'abord, parce que les vacances, elles ont commencé, et donc il y a un certain nombre de gens qui sont venus déjà dans le département. Mais sortons de ces problématiques de dire « je vais empêcher les gens de rentrer ». Arrêtons de prendre les Français pour des enfants en leur faisant uniquement des mesures autoritaires et pénalisantes. Si ça marche mieux à certains endroits qu'à d'autres, c'est probablement parce qu'on s'est adressé à l'intelligence collective plutôt qu'à la répression individuelle. Donc je continue à penser que bien sûr, il faut faire respecter les gestes barrières. C'est pas moi qui dis que le masque ne servait à rien, c'est Olivier Véran à une période. Hein. Mais effectivement, ces gestes, il faut les observer, il faut les faire observer. Mais par pitié, avançons sur la vaccination et sur les méthodes du 21e siècle et arrêtons de confiner, déconfiner l'ensemble de la population avec un bénéfice sanitaire très aléatoire pour une vie sociale très affectée.
Merci beaucoup Jean Leonetti. Je rappelle, maire d'Antibes dans les Alpes-Maritimes, médecin, on l'a bien compris, de nous avoir accordé cette interview sur Europe 1 et donc de nous avoir dit que pour vous, on va effectivement vers un confinement dans les 2 semaines qui viennent, tous les week-ends dans les Alpes-Maritimes et notamment dans votre ville d'Antibes. Merci à vous. Et puis, il y a un an, vous le savez, la ville de Codogno, dans le nord d'Italie, se retrouvait sous cloche, première ville confinée en Europe après le premier décès qui marquait le début de l'épidémie hors de l'Asie. Codogno se souvient, avec une très grande cérémonie organisée aujourd'hui. Blandine Hugonnet est retournée dans cette ville qui est restée très marquée.
Questo è il reparto dove è stato ricoverato il paziente numero uno. Dans les couloirs du petit hôpital de Codogno, son directeur, le docteur Andrea Filippine, désigne une salle. C'est dans ce service que le tout premier cas italien a été hospitalisé en soins intensifs. Le patient qui marque le début de la première vague en Italie et dans toute l'Europe.
Pour nous, ça a été un choc. On s'est rendu compte qu'en fait, on était tout à coup l'épicentre de la contamination. Parce que juste après le patient, un des centaines ont débarqué. Mais un an après, on s'en est sorti.
À l'étage du dessous, les urgences ne sont plus débordées. Il n'y a plus que quelques cas à Codogno et dans les salles d'attente. Et désormais, on vient surtout pour se faire vacciner. Mais les habitants ici sont marqués à jamais. Devant l'hôpital, Edmondo est venu avec un petit groupe pour se recueillir en cette date symbolique. Un an après, ce retraité se rappelle.
Les sirènes des ambulances, puis le silence qu'on a dû stocker les cercueils dans l'église. Interdit de faire un enterrement. C'est pour m'en souvenir que je suis là.
Quelques rues plus loin, devant les locaux de la Croix-Rouge de Codogno, un mémorial a été construit. Il est inauguré ce dimanche pour ne jamais oublier le sacrifice des soignants et rendre hommage aux premières victimes d'Italie. Codogno, Blandine Hugonnet, Europe 1.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
Frédéric Vidal persiste et signe dans le débat que la ministre de l'Enseignement supérieur a lancé sur l'islamo-gauchisme. Il y aura bien une enquête sur les atteintes à la laïcité dans les universités. C'est ce qu'elle dit dans le journal du dimanche. Ce matin, en réponse à la tribune pétition de 600 enseignants qui ont réclamé sa démission. Et ce matin, sur Europe 1, Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche, a justifié la nécessité de cette enquête.
L'objet, c'est de garantir justement la liberté de l'enseignement, de vérifier qu'il n'y a aucune entrave à l'université. Vous savez, il y a quelques mois, des personnalités du monde intellectuel étaient empêchées de mener des conférences, Sylviane Agacinski. Des pièces de théâtre étaient interrompues parce que leur mise en scène ne plaisait pas à certains. Ça, ce sont des sujets sur lesquels je crois qu'on aurait tort de fermer les yeux. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde universitaire, c'est la priorité ? Non. La ministre elle-même en convient. Je crois que la priorité, c'est d'apporter des solutions aux jeunes qui ont besoin de revenir à l'université. C'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que l'indépendance absolue des chercheurs doit être préservée ? La réponse est oui. Et là aussi, la ministre ne dit rien d'autre de différent.
Et Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche, qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews Les Échos.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
Djokovic, décidément invincible et maître à Melbourne, il vient encore de le prouver ce matin. Corinne Boulou en remportant son 18e titre du Grand Chelem et en balayant le russe Medvedev, qui est pourtant, vous me l'avez dit, l'un des plus doués de la nouvelle génération.
Oui, mais c'est vrai que face au numéro 1 mondial, le russe de 9 ans, son cadet, s'est trouvé sans solution. Novak Djokovic, accroché dans le premier set, 7 jeux à 5, a ensuite déroulé 6-2 pour s'imposer en moins de 2 heures. Daniil Medvedev, qui restait quand même sur 20 victoires consécutives, un titre à Paris-Bercy, au Masters de Londres, puis à la ATP Cup, s'est heurté au mur serbe. Il lui manquait sans doute, lui qui disputait sa deuxième finale en Grand Chelem, l'expérience d'un champion comme Djokovic qui remporte en effet à Melbourne son 18e titre en Grand Chelem, ce qui lui permet de revenir à 2 longueurs seulement du record de titres en Grand Chelem de Roger Federer et Rafael Nadal. Face à ces 3 immenses champions qui en finale élèvent comme jamais leur niveau de jeu, la jeune génération pourtant talentueuse montre qu'elle est encore en tendre. Il va falloir compter encore avec eux et surtout avec Djokovic, mais aussi Nadal à Roland-Garros, le prochain Grand Chelem sur la route des géants du tennis mondial. Sans oublier, Fabienne, un Roger Federer qui a bientôt 40 ans, a annoncé reprendre la compétition début mars, après une année blanche.
Et bien voilà qui promet du beau spectacle. Merci beaucoup Corinne Boulou. En football, le retour en championnat pour le PSG ce soir avec une rencontre face à Monaco. Notez qu'hier, Marseille a fait match nul à Nantes, un partout, match nul aussi, un partout face à Reims pour Saint-Étienne. Et puis, si je vous dis Focea, forcément, c'est un bateau qui nous a tous fait un peu rêver. Eh bien, il a coulé au large de la Malaisie. Ce bateau sorti des chantiers il y a 50 ans et dont le nom reste attaché au célèbre navigateur Alain Colas et bien sûr à Bernard Tapie. Ce bateau qui a été victime d'un incendie, Johanna Chabas.
Oui, les flammes ont ravagé l'arrière du 4 mâts jeudi dernier. Au bout de plusieurs heures, l'incendie maîtrisée, mais la coque est très endommagée. Et dès le lendemain matin, le bateau mythique coule. Ne reste plus que le bout des mâts qui dépasse à peine de l'eau. Ce voilier légendaire est associé, vous le disiez, au nom de Bernard Tapie. C'est lui qui l'avait baptisé le Focea. Mais c'est le grand navigateur Alain Colas qui le construit il y a près de 50 ans pour espérer remporter la transat anglaise, selon Gérard Petitpas, navigateur et spécialiste de la voile.
Il avait décidé de faire construire ce grand bateau qui était un peu hors norme, peut-être trop grand pour un solitaire. Quand on pense que les autres font 18 mètres, 20 mètres, et ben là c'était un bateau de 72 mètres avec 4 mâts. Et à manœuvrer par un homme seul, c'était vraiment quelque chose d'un peu fantasmagorique. Et Bernard Tapie, qui rêvait toujours de choses extraordinaires, a racheté ce bateau. Et puis ensuite, il en a fait un bateau luxueux qui était un hôtel de 5 étoiles.
La rénovation du bateau a coûté 10 millions d'euros et a duré 4 ans. Pour son inauguration, Bernard Tapie se marie à bord, bat le record de la traversée de l'Atlantique en monocoque un an plus tard. Cet objet de luxe est revendu après la faillite de l'entrepreneur à la femme d'affaires libanaise Bona Ayoub, puis au français Xavier Niel. Ce symbole du succès des années 80-90 finit au fond des eaux malaisiennes. Une enquête est ouverte pour connaître les causes de l'incendie et du naufrage.
Johanna Chabas. Et puis, on va finir avec une grosse frayeur pour les passagers du vol United Airlines 2-328 qui venait de décoller de Denver dans le Colorado, direction Hawaï, quand soudain, Laura Tauchanoff, un réacteur a pris feu, des débris ont commencé à tomber au sol. Il y avait vraiment de quoi imaginer le pire.
Oui, je pense que les passagers ont sûrement eu la peur de leur vie peu après le décollage de l'aéroport de Denver. L'avion est déjà dans les airs quand le réacteur droit s'enflamme. Sur les images postées sur les réseaux sociaux, vous voyez le réacteur littéralement en train de se désintégrer. L'avion commence à trembler, à perdre de l'altitude. Mayday, mayday, c'est alors que le pilote lance cet appel de détresse pour retourner se poser à Denver.
28, heavy, we experienced an engine failure, need a turn. Mayday, mayday, United, 28...
Alors, au secours, vous entendez la détresse du commandant de bord. L'appareil rebrousse alors chemin, mais sème sur son passage d'énormes débris dans le ciel. L'anneau du réacteur de la taille d'une porte d'entrée atterrit par exemple au beau milieu d'un jardin. Des débris éparpillés façon puzzle tout autour de la ville. Alors, pas question de les garder en souvenir. L'administration fédérale américaine de l'aviation demande aux habitants de ne pas y toucher. Elle va devoir récupérer ces morceaux un par un pour son enquête. En tout cas, plus de peur que de mal, Fabienne, puisqu'il n'y a eu aucun blessé, ni au sol, ni à bord. L'avion a pu atterrir sans encombre, sous les applaudissements des passagers, sûrement très soulagés.
Eh oui, on imagine ces applaudissements, effectivement, et ce soulagement. Il nous reste à voir le temps de ce dimanche. Valérie Darmon, vous nous dites prudence, parce que ça va souffler fort dans le sud.
Effectivement, Fabienne, jusqu'à 100 km/h sur les reliefs du Tarn et de l'Aveyron pour ces rafales assez violentes. Ce vent fort qui se généralise à tout le sud du Massif central, jusqu'au Cantal et jusque sur la Lozère et qui atteint son intensité maximum d'ici ce soir, jusqu'à 110 sur les hauts plateaux aveyronnais et 100 km/h sur la région toulousaine. Dans le même temps, les pluies se renforcent aussi ce soir et surtout la nuit prochaine en Languedoc-Roussillon à cause de cette dépression qui remonte vers les Baléares. Le vent marin qui souffle aussi très fort du Roussillon à la Provence, jusqu'à 100 km/h, toujours en rafale. Demain lundi, alors que l'épisode de fort vent d'autan se termine en Midi-Pyrénées en début de matinée, les pluies vont rester abondantes sur le sud du Massif central, des Cévennes à la Montagne Noire. Partout ailleurs, aujourd'hui, rien à signaler. Encore du soleil voilé dans l'ouest, contrairement à hier, très généreux dans l'est. En toute fin de journée, beaucoup de neige sur le relief pyrénéen. Les maximales toujours très douces, entre 13 à Aurillac et 21 à Biarritz.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Cette crise du Covid va-t-elle provoquer une fracture entre les générations? Certains parlent même d'un choc générationnel et un sondage cette semaine disait que la moitié des Français redoutaient un conflit entre les seniors et la jeunesse qui se sent sacrifiée pour éviter que les plus anciens ne tombent malades. Bonjour Serge Guérin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce midi sur Europe 1, sociologue, observateur éclairé de cette génération des seniors, professeur à l'INSEC. Vous dirigez d'ailleurs un diplôme de directeur des établissements de santé. Vous qui avez écrit notamment « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» C'était en 2017. C'était un titre prémonitoire de ce qu'on est en train de vivre en ce moment.
C'est-à-dire qu'on revenait sur le fait que très très souvent ça revient. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de conviction, de lancinante. Il y a une guerre des générations. C'est obligé qu'il y ait une guerre des générations, en fin de compte. Il y a ce côté comme ça, c'est presque pavlovien.
On l'a eu pour la réforme des retraites. Et là, évidemment, avec cette crise sanitaire, c'est encore plus aigu parce qu'effectivement, il y a la mort aussi qui se profile.
Bien sûr, puis ça fait quand même un an qu'on nous dit d'un côté, les jeunes, il n'y a aucun risque. Et les vieux, c'est vraiment l'âge et vous risquez de mourir demain, quoi. Et entre les deux, il n'y a presque rien.
Et pourtant, j'ai trouvé ça passionnant dans le 1. Vous dites qu'il ne faut pas opposer ces générations, parce que je crois que pour vous, l'idée d'un choc, non, il y a des passerelles. Vous dites même, cette période a été marquée par des actes de solidarité entre les générations, lesquelles ?
Oui, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on nous sort des sondages. Alors là, il y en avait un, je regardais, il y en avait eu un dans la revue La Légion d'honneur, par le même organisme, en décembre, où là, c'était 75% des gens qui disaient « il y aura un risque ». Voilà. Mais finalement, s'il y a un risque, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, d'une certaine manière. Et ce qu'on peut voir, c'est partout dans la société, c'est ce que j'appelle des solidarités minuscules. C'est l'étudiant qui va toquer sur la porte du palier avec Madame Denise, qu'il a à peine vue, mais il sait qu'elle est âgée. Il dit, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Que vous voulez que j'aille faire les courses? Et la Madame Denise qui lui dit oui ou non, et tout ça. Et puis la Madame Denise qui, 3 jours plus tard, aura fait une soupe et viendra en poser un devant la porte et qui va toquer en disant, je vous ai fait une soupe. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qui se sont passées, qui continuent de se passer et qui montrent qu'au contraire, il y a quelque chose, je dirais, d'anthropologique, d'essentiel entre nous, qui est de créer, de maintenir ces alliances entre les générations. Tout simplement parce que quand on dit aux jeunes ou quand on dit aux plus âgés, en fin de compte, on pense d'abord à nos parents, à nos grands-parents, ou inversement, à nos enfants, nos petits-enfants. Et donc on oublie qu'il y a ce côté tout bête, familial, qui renvoie tout simplement à ce qu'on vit au quotidien.
Et cette semaine, je rebondis là-dessus, Serge Guérin, plusieurs membres du Conseil scientifique, dont le président Jean-François Delfraissy, ont appelé dans une tribune qui a été publiée par la prestigieuse revue Lancet. Ils ont appelé à un contrat social. D'un côté, il y a les plus jeunes générations qui accepteraient la contrainte de mesures de prévention, les masques, la distanciation physique. Et en échange, les plus âgés, les plus vulnérables accepteraient de s'auto-confiner.
Alors, je
vous
dirais que
soupirer.
Oui, ça me laisse pantois à la fois sur un côté philosophique qui est quand même assez bizarre, qui en plus d'infantiliser complètement, on va vous dire ce qu'il faut faire. Comme si, en plus, les gens qui ont un peu d'âge n'étaient pas au courant depuis un an qu'ils avaient tout intérêt à faire attention et qu'ils font globalement attention, comme d'ailleurs les plus jeunes font aussi très globalement attention. C'est-à-dire qu'on a une vision comme ça, ça viendrait du haut, la science dirait, ou quelques scientifiques diraient, au nom de quoi? On ne sait pas, il faut faire comme ça, en oubliant les questions philosophiques, les questions morales, les questions mentales. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais même, imaginons, il y a à peu près 23 millions de personnes qui sont en fragilité. Donc imaginons qu'il y ait 2/3 des Français qui disent « on va boire la bière » et puis il y a 1/3 qui reste enfermé. Oui, il y a un côté, mais c'est invivable, y compris pour les 2/3 en question. Alors, on parie sur une sorte d'égoïsme global. Mais non, il n'y a pas d'égoïsme global.
Là, il parle de contrat social, au contraire, comme d'un échange. Mais ça, c'est...
Je trouve ça complètement idiot. Il est où, le contrat social? On l'a très bien vu de manière très intuitive. Regardez, juste avant Noël, les gens sont allés en masse se faire tester. Et c'était bien dans l'idée de, si j'ai un problème, je n'irai pas voir les grands-parents, je ferai attention à mes parents, à mes amis, quel que soit leur âge. Les gens, ils sont adultes. Pourquoi on ne fait pas le pari que les gens sont adultes, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient le plus âgés, les gens sont adultes. Et puis en plus, il y a un autre effet quand même qui est un peu bizarre, c'est que la circulation, elle n'est pas liée aux plus âgés, elle est plutôt liée aux plus jeunes. Les plus jeunes, pour l'instant, a priori, sont les moins touchés, mais favorisent le plus la circulation. Donc on pourrait complètement inverser le truc, on dirait, non, puisqu'il n'y a pas de circulation, laissons les vieux sortir et enfermons les jeunes. Vous voyez, c'est complètement idiot. La question, c'est plutôt de jouer sur la responsabilité d'informer, et là quand même depuis un an, on est assez au courant, et puis après on peut débattre, c'est le retour du politique. Après tout, le président Macron a choisi de ne pas reconfiner, c'est le retour du politique, plutôt qu'être tout le temps gouverné par quelques scientifiques qui en plus ne sont jamais d'accord. C'est ça aussi, c'est quand même plus intéressant de se dire, on fait des choix collectivement, en prenant nos risques, en faisant attention à telle ou telle chose.
Une dernière question, Serge Guérin, justement. Est-ce que pour vous, il n'y a pas de choc générationnel? Si je vous entends bien, au contraire, vous jouez sur ces passerelles et sur ce lien social qu'il faut au contraire préserver et que vous semblez dire qui est préservé, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a un danger, justement, à attiser ce débat pour vous?
Oui, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, comme si on n'avait pas d'autres débats. Alors que la France va quand même pas très bien, elle est quand même extrêmement fracturée. S'il y a quelque chose qui fonctionne plutôt bien, ça veut pas dire que c'est merveilleux, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des différences. Et heureusement qu'on s'engueule avec ses parents, heureusement qu'on n'est pas d'accord sur tout. Mais par exemple, dans l'entreprise, on voit bien que les différentes générations, elles ont su plutôt travailler ensemble, avec même cette notion de réciprocité.
C'est-à-dire
parfois, j'apporte, avant j'apprenais des plus âgés, c'était comme ça. Aujourd'hui, j'apprends des plus âgés, mais je leur apprends aussi. On l'a tous entendu, on l'a dit nous-mêmes, ma petite fille de 8 ans, elle m'a réparé mon téléphone en 2 minutes, mon téléphone portable. Et quand la personne dit ça, Elle n'est pas vexée, elle n'est pas honteuse, elle n'est pas humiliée, elle est admiratrice que sa petite fille de 8 ans ait réparé en 2 minutes et rebranché le téléphone portable, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a plutôt plus d'échanges aujourd'hui et plus de réciprocité que sans doute il n'y en a jamais eu. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt quelque chose de très positif. Et soyons, bazar de Dieu, soyons de temps en temps un peu positifs. On regarde toujours les choses qui ne vont pas bien. Là, par exemple, il n'y a pas de guerre des générations, et bien au contraire, il y a plein de guerres, il y en a suffisamment comme ça, pour essayer de, au contraire de valoriser cela, de continuer à créer ces alliances, de continuer à avancer ensemble, avec des intérêts qui peuvent être différents, mais pas nécessairement divergents.
Et pas forcément en s'opposant, mais en dialoguant. Merci infiniment, Serge Guérin, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Je rappelle, entre autres, effectivement, l'un de vos livres, La guerre des générations aura-t-elle lieu ? C'était en 2017, question toujours d'actualité.
Elle n'a toujours pas eu lieu.
Même si elle n'a toujours pas eu lieu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et puis, vous le savez, on poursuit cette tranche d'information à 13h en ouvrant les carnets du monde avec Sophie Larmoyer. Bonjour Sophie, au programme aujourd'hui.
Bonjour Fabienne. Vous savez que c'était Mardi Gras cette semaine. Alors les carnavals ont généralement été annulés un peu partout, mais certains ont trouvé la parade. À la Nouvelle-Orléans, par exemple, ce sont les jardins particuliers qui ont pris les couleurs et les formes féeriques des chars. Et puis on va aussi se rendre dans l'atelier d'une grande école de samba à São Paulo, au Brésil.
Merci Sophie, à tout de suite.